Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Patience Banangue.
Profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba. 6 personnes sont arrêtées. C'est ce qu'a annoncé hier mercredi le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité à l'issue d'une réunion avec la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, ainsi que des responsables de services de sécurité. Jacques Chabani est à suivre dans ce journal. Prolongation d'un an du mandat de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, Sami Diarsi. Décision contenue dans le communiqué final de la réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et des gouvernements du 20 novembre à Harare, à laquelle a participé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La province de l'Ituri fait face à d'énormes défis dans la lutte contre les cancers du sein. C'est Dr José Wanichan, membre de l'Association des femmes médecins de l'Ituri, qui l'a dit à l'occasion de la campagne de dépistage contre cette maladie lancée à Bounia il y a plus d'une semaine. Elle est notre invitée dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. 6 personnes présentées comme des présumés auteurs de l'acte de profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba ont été arrêtées. 2 autres personnes sont recherchées. C'est ce qu'a annoncé hier mercredi le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. C'était à l'issue d'une réunion avec la ministre de la Culture, Art et Patrimoine ainsi que des responsables de services de sécurité de la République démocratique du Congo. Il donne d'autres détails dans cet extrait proposé par Blaise Makassi.
Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Art, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion que, à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée, elle est protégée.
Justice, peine de 3 ans requis par le ministère public contre l'opposant Seth Kikuni. Les dossiers de l'opposant est clos depuis hier à la prison centrale de Makala. Le tribunal de paix de Kinshasa Gombe l'a prise en délibéré et rendra son verdict dans le délai de la loi, soit le 27 novembre. Le ministère public demande au juge de reconnaître Seth Kikuni coupable de l'incitation à la désobéissance civique et de la propagation des faux bruits lors d'un échange avec le militant de son parti à Lubumbashi. Au cours de ces rassemblements, il avait demandé à ses interlocuteurs de s'élever et braver la peur, affirmant que les présidents de la République auraient triché aux élections. Les conseils du prévenu plaident non coupable, estimant que son client jouait bien son rôle d'opposant en s'entretenant avec sa base et que ses propos ne doivent pas être constitutifs des infractions lui imputées. Il sollicite son acquittement pur et simple. C'est le 23 octobre qu'a débuté le procès du président de piste pour l'émergence après sa détention prolongée dans les installations des services de sécurité. Je le disais au sommaire, les mandats de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, Sami Diarsi, a été prolongé d'un an afin de poursuivre sa lutte contre l'instabilité et l'insécurité qui règnent dans l'est de ces pays. C'est ce qu'indique le communiqué final de la réunion extraordinaire du sommet de chefs de l'État et des gouvernements du 20 novembre à Harare, au Zimbabwe, réunion à laquelle a participé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le sommet a réitéré son soutien au gouvernement de la RDC et rappeler l'engagement des États de la sous-région d'apporter une réponse appropriée à tout membre victime d'une agression par une réponse communautaire appropriée. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Après avoir reçu les nouvelles informations sur la paix et la sécurité en RDC, le sommet a manifesté son inquiétude face à la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays et a réitéré le soutien de la SADC au gouvernement congolais dans sa quête de la paix, de la stabilité et de la sécurité durable. En outre, le sommet a réaffirmé l'engagement pris par la région dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC qui dispose que toute attaque armée contre l'un d'entre eux sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité de toute la région et a félicité les États membres pour les contributions et le soutien qu'ils fournissent à la SAMI DRC, témoignant ainsi de la solidarité collective envers ses membres. Le sommet a félicité les dirigeants de la SAMI DRC et l'ensemble du personnel déployé dans le cadre de la mission pour leur sacrifice, leur dévouement et leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, a précisé les communiqués. Notez que la SAMI DRC bénéficie de l'appui de la MONUSCO afin de lui permettre d'être plus opérationnel dans l'est de la RDC.
Au Nord Kivu, la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMI DRC, doit œuvrer en faveur de la protection des civils et du respect des droits humains dans cette zone affectée par la guerre. Ces propos sont ceux de la chef adjointe de la MONUSCO en charge des opérations et de la protection. Viviane Van de Peer l'a dit dans son mot d'ouverture hier mercredi à Goma, de deux jours des concertations sur les cadres de conformité de la SAMI DRC en matière des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Cette formation est organisée par la MONUSCO en collaboration avec la SADC, inscrite dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions 2717 et 2746 du Conseil de sécurité. La formation réunit une trentaine d'officiers du commandement du contingent de la SADC en RDC. Nord Kivu toujours, les jeunes se disent préoccupés par la situation humanitaire et sécuritaire des déplacés qui sont dans différents camps tout autour de la ville de Goma. Ils ont fait part de leur appréhension à ces sujets à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC ce jeudi. La question des jeunes déplacés non scolarisés a également été abordée lors de cette rencontre. De Paul Bakoulou, membre du collectif Goma Actif, parle des attentes des jeunes au micro de Chris Mukand.
Pour nous, Bintou, c'est une voix considérable au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons parlé avec elle pour l'inciter à continuer à amplifier la voix des Congolais et particulièrement ceux des déplacés parce que bien qu'ils ont besoin de manger, bien qu'ils ont besoin de l'eau et des abris, ce dont ils ont le plus besoin, c'est la paix. Au-delà de ça, nous avons aussi parlé un peu plus de la situation sécuritaire autour des camps parce que des mois passés, on a été alertés sur des cas de violences sexuelles dans les camps des déplacés et c'était une demande de faire en sorte qu'il y ait une forme de task force sécuritaire entre la MONUSCO et le gouvernement congolais pour voir comment démanteler ces réseaux de violeurs dans les camps des déplacés et qui met mal à l'aise les femmes qui sont la plupart des fois victimes de ces violences sexuelles et des violences basées sur les genres. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus pensant que la situation allait se sécuriser, qu'ils allaient rentrer chez eux et continuer avec les études, mais ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont là et certains d'entre eux sont rentrés même dans les groupes armés. Et c'était une alerte et une inquiétude qu'on a partagée avec elle pour qu'elle continue à amplifier ses plaidoyers pour la paix, qui ont besoin que la MONUSCO fasse de son mieux pour que ces gens rentrent chez eux, mais en collaboration avec le gouvernement congolais.
Notez que Mme Bintou Keïta est à Goma depuis hier mercredi. Aussitôt arrivée, elle a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwa Minkuba. Plusieurs autres activités sont à son agenda, notamment la réunion avec les organisations et associations des femmes ce jeudi même et la visite de quelques sites de déplacés internes la journée de vendredi. Nord Kivu encore, des affrontements ont éclaté dans la journée du mercredi 20 novembre 2024 entre un groupe présumé des Maïmaï et les FRDC à Mabambi, une localité située à environ 75 km au nord-ouest de Lubero centre dans le territoire de Lubero. Selon plusieurs sources locales, cette situation a provoqué un déplacement massif de la population fuyant les combats vers des zones jugées plus sûres. André Kitenge nous fait le point.
Les échanges de tirs ont débuté aux environs de 5h du matin heure locale dans la localité de Mabambi située sur l'axe routier Butembo-Vuimba dans le groupement de Bassoa. D'après la société civile locale, les soldats des FRDC positionnés à Kalundu, un village distant de 5 km de Mabambi, ont tenté de déloger un groupe de Maïmaï qui s'était installé dans la position de Vusanza, prise le 14 novembre dernier. Aucun bilan officiel de ces affrontements n'a été communiqué par les FRDC à ce jour. Des sources concordantes rapportent que les activités socio-économiques dans la région ont été paralysées depuis ce mercredi matin et jusqu'à ce jeudi, avec un exode de la population vers des lieux jugés plus sécurisés. Il reste difficile de déterminer qui contrôle actuellement la position de Vusanza, qui est disputée par les deux camps. Ce jeudi matin, la situation semble être calme selon les informations de la société civile. Il convient de rappeler que plusieurs groupes armés continuent d'être actifs dans la région. En octobre dernier, les représentants de ces groupes armés avaient signé un acte d'engagement stipulant qu'ils ne s'attaqueraient pas au FRDC durant la guerre contre le M23. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En Ituri, des hommes armés identifiés au Wazalendo en provenance du Nord Kivu se déploient en petits groupes depuis quelques semaines dans cette province. Certains ont été arrêtés la semaine dernière par le FRDC dans le territoire d'Irumu. Leur présence inquiète la société civile qui demande aux autorités de traquer ces présumés Wazalendo qui cherchent à déstabiliser l'Ituri sous prétexte de combattre les rebelles du M23 qui ne sont pas actifs dans cette province. Isaac Remoyope.
Une première équipe de Wazalendo était arrivée il y a quelques temps avec un ordre de mission dans les territoires de Mambasa pour sensibiliser les groupes armés locaux à s'impliquer dans les combats contre les M23. Depuis lors, ils s'installent en petits groupes dont le dernier, composé de 6 personnes, a été arrêté la semaine dernière par les FARDC vers Mungamba, déclare la société civile. Son coordonnateur indique que les M23 n'est pas opérationnel en Ituri pour justifier leur déploiement. Dieudonné Lossa demande à l'armée de mettre fin à ces mouvements des groupes armés déguisés qui risquent de déstabiliser l'Ituri qui connaît actuellement une certaine accalmie.
Wazalendo, ce sont des groupes armés. Alors, on a beaucoup de groupes armés ici en Ituri, donc on n'aimerait plus avoir d'autres groupes armés venus du Nord Kivu troubler davantage la situation sécuritaire en Ituri.
Les porte-parole de l'armée en Ituri rassurent que les FARDC sont déjà instruites pour arrêter les faux Wazalendo, ADF et tous les détenteurs illégaux d'armes qui troublent la quiétude de la population. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Certaines, celles là qui se disent Wazalendo, qui ne posent pas les actes patriotiques, ils seront traqués, arrêtés, jugés ou même déférés à la justice. Qu'il y a beaucoup qui se sont déguisés. Non seulement les Wazalendo, mais aux ADF. La fois passée, nous avons arrêté certains. C'est l'ordre que nous voulons imposer.
Le lieutenant Gilles Ngongo exhorte la population à être vigilante et à dénoncer tous les suspects. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères est en visite de travail à Kinshasa depuis ce jeudi matin. Le séjour du docteur Badr Abel Atti s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et la RDC. Selon les comptes X du ministre congolais des Affaires étrangères, son agenda prévoit des consultations politiques, la signature de deux accords bilatéraux avec la RDC, un accord d'exemption réciproque des visas pour les titulaires des passeports diplomatiques et des services, un autre accord cadre portant coopération entre la RDC et l'Égypte. Avant son retour, le diplomate égyptien va visiter les contingents égyptiens de la MONUSCO basés ici à Kinshasa. À Mbanzangungu, au Congo central, les élèves de l'EPE Mbanza, dont les bâtiments scolaires ont été détruits lors des dernières pluies, ont repris les cours hier mercredi. Les autorités éducatives ont installé des tentes dans la cour de l'école où ces élèves devront désormais étudier en attendant la reconstruction d'un nouveau bâtiment scolaire. L'inspectrice principale provinciale, Véronique Atandio, qui a assisté à l'installation de ces tentes, a indiqué qu'il s'agit d'une solution provisoire pour sauver l'année scolaire. De nombreux élèves qui fréquentent cette école. Les points avec Nana Plurich Mambou.
Cette reprise des cours à l'école primaire Mbanza intervient après 7 jours d'arrêt total des activités scolaires. Ceci est grâce à l'installation des 3 tentes de grande dimension que les autorités éducationnelles ont reçues de l'UNICEF dans le cadre des réponses à des situations d'urgence. Cette école de 9 classes, avec un effectif de 935 élèves, va désormais fonctionner en dévacation pour pallier au manque de locaux qui se pose avec acuité. De son côté, l'inspecteur principal provincial du Congo central 2 invite les parents à ne pas se décourager en voyant leurs enfants étudier dans les tentes. Véronique Atandio rassure que les élèves seront sécurisés et les enseignements vont se poursuivre normalement. Pour rappel, la toiture de l'EPE Mbanza s'est envolée à la suite d'une forte pluie survenue la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre dans la zone. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Célébration ce mercredi 20 novembre de la journée internationale One Earth, entendez une santé. Cette année, le thème choisi est « Approche une santé dans nos communautés ». La cérémonie a eu lieu hier mercredi à l'hôtel Pullman à Kinshasa. L'objectif principal de cette célébration est de contribuer à la mise en œuvre de l'approche une santé en RDC par la sensibilisation des parties. Au cours de cette rencontre, les différentes partenaires dont l'OMS et l'Institut national de santé publique ont encouragé cette union pour lutter contre les différentes maladies provenant du domaine sauvage. Il faut rappeler que cette journée rappelle l'approche entre la santé humaine, animale et environnementale en vue de mutualiser les forces pour atteindre les objectifs assignés. Reportage Étienne Lissumbo.
Environnementalistes, vétérinaires et autres médecins se sont retrouvés pour réfléchir sur comment combattre les maladies d'origine sauvage. Nadège Ngombe Kabamba, coordonnatrice des CCUS, donne l'objectif qui vise ces assises.
La maladie commence dans la communauté. On doit l'arrêter dans la communauté. Donc nous devons aller vers la communauté avec le renforcement de la collaboration multisectorielle pour que nous puissions avoir un résultat qui puisse stopper l'événement de santé complexe qui se présente à nous. Dans nos familles, qui sont les noyaux qui constituent les noyaux de nos communautés, nous devons déjà apprendre à travailler ensemble, apprendre à nous tenir main dans la main pour avoir des résultats optimaux.
Prévenir la population à se protéger contre les risques de contamination des maladies d'origine sauvage est l'une des missions que poursuit l'organisation One Earth. Mukeni Badibanga, directeur général adjoint de l'Institut national de santé publique, explique.
Nous devons travailler main dans la main parce que comme les anglophones disent « divided we fall, together we stand », tout simplement pour dire que nous devons travailler ensemble pour être forts et atteindre l'objectif. Et vous verrez que l'INSP joue un rôle capital. Nous prenons en considération en fait tous les contours de la question de l'objectif.
À la fin de la cérémonie, une visite des stands a été organisée.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le gouvernement gèle les biens et les ressources économiques de plus d'une centaine de personnes physiques et morales, et c'est pour 6 mois renouvelables. Parmi elles, l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, des anciens ministres, journalistes, des militaires, des bergers, cultivateurs ou encore commerçants, tous accusés de participation à des actes terroristes.
L'invité.
La province de l'Ituri fait face à d'énormes défis dans la lutte contre les cancers du sein. C'est la docteure José Wanichan, membre de l'Association des femmes médecins de l'Ituri, qui l'a dit. C'est à l'occasion de la campagne de dépistage contre cette maladie lancée à Bunia il y a plus d'une semaine. Elle affirme que l'Ituri ne dispose d'aucun matériel adéquat pour le dépistage ni des médicaments nécessaires pour la prise en charge de malades. La docteure José Wanichan s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Docteur José Wanichan, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre motivation en organisant cette campagne?
D'abord, je vais vous rappeler que c'était dans le cadre du mois d'octobre rose, consacré pour la sensibilisation des femmes et les encourager à se faire dépister à travers le monde. Alors, on avait déjà fait les lancements, les 7, et après les lancements, nous avons commencé aussi les dépistages.
Jusque-là, vous avez consulté ou dépisté combien de femmes, par exemple?
Jusque-là, c'est la deuxième séance de consultation que nous avons organisée. Nous sommes déjà dans les 30 des femmes qui sont passées pour se faire consulter. Donc, les mamans viennent spontanément. Nous avons aussi profité des femmes qui viennent à la CPN, on les sensibilise et puis on profite de la même occasion pour les dépister aussi.
Quel est le pronostic que vous avez sur base de ces femmes que vous avez déjà dépistées?
Bon, de façon générale, c'est bon. Il y a quelques cas que nous avons, mais on ne peut pas confirmer un cancer par la consultation simple. Il faut faire des examens anatomopathologiques que nous n'avons pas encore fait. Et puis, on ne peut pas les faire aussi sur place à Bunia par manque de matériel nécessaire pour les faire.
Vous évoquez un problème d'examen approprié qui n'est pas possible sur place à Bunia. Et au cas où, parmi ces femmes, il y a celle-là dont le résultat est positif, qu'est-ce que vous allez faire?
Bon, nous sommes en train de consulter les mamans. Les femmes qui présentent quelques pathologies, on va les regrouper. Peut-être nous allons voir comment faire des plaidoyers par-ci, par-là pour la continuité ou bien la suite de leur prise en charge. La première personne à qui on va s'adresser, c'est l'État congolais. Mais par la suite, nous allons voir aussi les ONG s'ils peuvent nous aider à accompagner ces mamans dans leur prise en charge. Parce que nous manquons presque de tout. D'abord, on n'a pas les moyens de faire les dépistages. Je peux découvrir qu'il y a un nodule. Il faut que je fasse la biopsie. Je n'ai pas les matériels nécessaires pour faire la biopsie. On doit faire la mammographie chez certaines femmes. On n'a pas l'appareil de mammographie ici à Ituri. Mais souvent, des camps que je reçois ici, je prélève, je les envoie à Kampala pour faire les examens. Une fois que les résultats sont sortis, bon, on voit comment les accompagner, soit on les réfère là-bas, parce que nous, on n'a pas de médicaments, on n'a absolument rien. Et ceux qui n'ont pas de moyens, on ne peut rien faire pour les accompagner. C'est vraiment triste.
Quels sont les signes précurseurs qui peuvent alerter par rapport au cas du cancer du sein?
Normalement, il ne faut pas que la femme attende qu'elle arrive au signe des cancers du sein. Donc, il y a plusieurs signes précurseurs, comme vous le dites. La femme peut avoir des nodules au niveau du sein. Elle peut avoir...
Nodules, en termes simples, c'est quoi?
Ce sont des tumefactions, si je peux dire, en swahili, nasema kivimba, ou bien mbekundanyamaziba, boule, les mamans appellent boule dans le sein. Elle peut avoir des rétractions au niveau des glandes mammaires, ou bien de l'ombilication du sein, c'est-à-dire que les mamelons commencent à s'ombiliquer. Les tétons, cognom, toton, asoma, kananjaza, mandani. Elle peut avoir des peaux d'orange au niveau du sein, elle peut avoir des rougeurs au niveau du sein, ou bien elle peut avoir des plaies d'ulcération au niveau de ça, au niveau des mamelons. Là, ce sont quelques signes qui doivent attirer l'attention de la femme pour qu'elle vienne se faire consulter directement. Sans qu'il y ait des signes ou des lésions, si elle commence à se faire dépister régulièrement, ça nous permettra aussi, elle-même et le personnel soignant, de faire une prise en charge précoce avant qu'elle n'arrive au cancer.
Et comment prévenir?
Bon, la prévention, c'est d'abord le dépistage. Vous savez, chez nous, malheureusement, en Afrique, même au Congo, de façon générale, les dépistages se font de façon tardive. La femme vient quand elle a déjà des ulcères, elle a déjà même des rétractions, elle a tous les signes de complications. C'est alors qu'elle vient se faire consulter. Mais à temps ordinaire, les mamans ne viennent pas se faire consulter.
Et en termes de prévention, qu'en est-il de palpation ou autre pratique?
Oui, d'abord, de façon générale, nous apprenons à toutes les mamans à faire une autopalpation à domicile. Même les femmes qui sont en train de passer ici pour la consultation, on commence d'abord par une éducation. C'est-à-dire, on leur montre comment il faut faire l'autopalpation à la maison, devant les miroirs, comment elle va se faire consulter, parce qu'il y a deux temps, elle va faire l'inspection, elle regarde les seins, elle observe à travers les miroirs. Après, elle va faire les toucher, elle va palper elle-même ses seins. Et une fois qu'elle découvre qu'il y a un petit nodule ou une petite anomalie, n'importe quelle, il faut qu'elle se rende immédiatement à l'hôpital pour se faire consulter.
Mais est-ce que le fait de sucer, pour terminer, est-ce que le fait de sucer le sein d'une femme peut aussi prévenir?
Ça fait partie des éléments de prévention du cancer des seins chez la femme. Les femmes doivent bien allaiter leurs enfants. Et de façon régulière, ça va prévenir les cancers chez les femmes. Nous encourageons toutes les femmes de bien allaiter leurs enfants.
Il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, ou comment est-ce qu'elles peuvent faire pour cela?
Le non-allaitement fait partie des facteurs de risque du cancer des seins.
Docteur José Wanichan, merci.
Et je vous remercie, monsieur le...
Et c'est par ici que nous bouclons cette session d'actualité sur Radio Kapi. Jean-Claude Ntiala a assuré sa mise en onde. Martin Sebujangwe et Élisée Chikota-Chivueta l'ont respectivement supervisé et coordonné. Patience Ngalo-Lambombo était à la présentation. Merci à vous tous de l'avoir écouté.